France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Un écrivain sur la croisette, dans son dernier livre, Le Festival de Cannes ou Le Temps Perdu, Santiago Amigorena raconte 40 ans de sa vie à travers son expérience de festivalier. Il sera mon invité à partir de 13h. Mais pas de midi sans critique aujourd'hui. On parle littérature états-unienne avec Il était une fois dans les Amériques, réédition de trois récits du journaliste et romancier chouchou des scénaristes David Gran, et Mona et son manoir, une suite anglaise des célèbres chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin. Vous écoutez les midis de culture, vous avez une oreille très fine. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Johan Farber, éditeur, essayiste et critique littéraire, bonjour.
Bonjour Marie.
Pierre Benetti, co-directeur éditorial du journal En attendant Nadeau, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. On commence donc avec une réédition. Il était une fois dans les Amériques rassemble trois récits de l'écrivain américain David Gran. L'un bien connu, La cité perdue de Z, adapté au cinéma par James Gray. Et les deux autres publiés initialement dans la presse, Chronique d'un meurtre annoncé et The Yankee Commandante. Les trois nous emmène sur les traces d'hommes au destin unique, fait d'aventures et de quêtes éperdues, au Brésil, au Guatemala et à Cuba. David Gran, qui a connu un succès triomphal avec Killers of the Flower Moon, adapté au cinéma par Scorsese, et surtout Les Naufragés du Wager, reste fidèle à sa méthode. Une documentation précise, un détricotage des récits légendaires et une écriture tenue. On commence avec un avis rapide, Pierre Benetti.
C'est un volume très intéressant d'un côté, parce qu'il permet à celles et ceux qui ne connaîtraient pas de découvrir un peu l'art assez singulier, il faut dire, de David Gran, qui a un art narratif très très poussé, et en particulier sur des situations du passé, ce qui est quand même assez étonnant pour un journaliste. Et bon, de l'autre côté, c'est un volume qui n'apporte rien de nouveau, c'est des textes un petit peu anciens déjà, et à les lire ou les relire, je me suis dit que c'était un volume qui montrait quand même l'existence de limites, de frontières, même s'il faut pas forcément défendre les frontières des genres, mais entre, disons, l'histoire d'un côté, la littérature de l'autre, et puis le journalisme. Mmh. Et à mon sens, par bien des aspects, David Gran reste un excellent journaliste, et parfois son écriture est très belle, mais voilà, on aimerait que ça aille un peu plus loin parfois.
Johan Farber.
Je trouve que effectivement, ce sont trois récits tout à fait impressionnants dans la manière dont l'enquête est menée sur des faits du passé pour proposer une vision de l'Amérique comme une sorte de contre-épopée de l'Amérique, véritablement une sorte de contre-genèse négative qui est assez intéressante, mais qui effectivement pose un certain nombre de problèmes, notamment dans le rapport que ce journaliste tisse à la littérature, et on y reviendra peut-être, sur une sorte d'injonction contradictoire, une sorte de double bind qu'il a à la littérature et qui est ici un petit peu problématique, je trouve.
Alors, on va continuer à discuter, mais d'abord, on écoute un extrait. Il s'agit d'un passage de La cité perdue de Z, qui est lu par Louis Cosnard.
Par une froide journée de janvier 1925, un homme de haute taille, à l'allure distinguée, traverse d'un pas pressé les docks de Hoboken dans le New Jersey. Il se dirige vers le SS Vauban, un paquebot de 155 mètres en partance pour Rio de Janeiro. Âgé de 57 ans, le gentleman mesure plus d'un mètre 80, il a de longs bras musclés, et malgré un front un peu dégarni et une moustache poivre et sel, sa forme physique lui permet de marcher pendant des jours et des jours, en prenant peu ou pas de repos ni de nourriture. Il a le nez tordu d'un boxeur et ses traits, ses yeux surtout, ont quelque chose de farouche. Assez rapprochés l'un de l'autre, ils vous scrutent sous des sourcils épais et hirsutes. Personne, même dans sa famille, ne semble s'entendre sur la couleur de ces yeux-là. Certains les disent bleus, d'autres gris. Mais quiconque croise son regard est frappé par son intensité. D'aucuns prétendent que c'est celui d'un voyant. Les photos le montrent souvent portant des bottes de cavalier, un Stetson sur la tête et un fusil à l'épaule. Mais même en costume-cravate et sans son habituelle barbe en broussailles, la foule massée sur la jetée le reconnaît. Il s'agit du colonel Percy Harrison Fawcett, un nom célèbre dans le monde entier.
Voilà la description de l'explorateur britannique Percy Harrison Fawcett par David Grann dans La Cité perdue de Z. C'est vraiment le plus connu des trois récits de ce livre. Il était une fois en Amérique. Pierre Benetti, on va d'abord revenir sur ce que vous notiez, c'est l'art narratif très particulier de David Grann.
Bah, c'est un peu un journalisme non actuel, ce qui fait que c'est pas totalement un journaliste. C'est un journaliste un peu bizarre, hein, David Grann, qui va aller s'intéresser à des faits très lointains, comme dans la Cité perdue de Z, ou un petit peu plus récent, puisqu'on les deux articles qui, à mon sens, sont bien moins connus. Hein, l'un parle de la situation politique au Guatemala, qu'on connaît quand même assez mal, autour des années 2009-2010. Et puis l'autre, c'est l'aventure et surtout les mésaventures de El Comandante Yankee, donc William Morgan, qui s'engage auprès de Castro et qui se fait supprimer par lui. Donc c'est déjà dans le choix des sujets, il est assez étonnant, en fait, David Grann. Dans le même temps, il va s'intéresser à mon sens, une thématique qui est proprement littéraire, enfin qui est plutôt une thématique d'écrivain, qui est la place des fictions dans le réel. Moi, j'ai trouvé que c'était assez étonnant d'ailleurs d'appeler ce volume « Il était une fois dans les Amériques », bon, ce qui est un titre très Sergio Léonien ou léonesque, parce qu'à mon sens, le volume, il parle plutôt de conspiration, de complot, de rêve, de comment l'imaginaire prend place dans différentes réalités. Et ça, c'est vraiment c'est un sujet de romancier, c'est un sujet où on questionne vraiment la place des imaginaires dans l'histoire. Et à plein d'aspects, c'est assez étonnant même de voir, par exemple, des références à Don DeLillo dans les deux articles, qui est vraiment le romancier de la conspiration ou du complot. Et voilà, donc on se trouve là dans un art narratif qui entremêle les disciplines, mais qui entremêle aussi les motifs qui sont ceux des historiens, des écrivains, des journalistes.
Johan Farber.
C'est vrai que David Grann, il est connu, en tout cas reconnu, pour son art de l'enquête, qui est un art de l'enquête journalistique. Il travaille essentiellement à la reconstitution des faits. Pierre Benetti vient de les rappeler. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ces trois récits, c'est qu'en fait, David Grann procède plutôt à une enquête narrative, c'est-à-dire il est pris au cœur d'une guerre des récits. C'est-à-dire que loin de s'intéresser aux faits eux-mêmes, il s'intéresse plutôt à la manière dont les faits ont déjà été racontés par d'autres.
C'est ce qu'il fait toujours, hein, d'ailleurs.
C'est ce qu'il fait toujours. Et je trouve que là, le rapprochement entre ces trois récits permet de souligner effectivement qu'on se retrouve dans cet adage, ce vieil adage de la modernité des années 60 de Jean Ricardou, hein, le roman n'est plus l'aventure d'un récit, mais le récit d'une aventure. Sauf que là, c'est incarné. Et le problème de l'incarnation, c'est au cœur de cette écriture. C'est-à-dire que Pierre évoquait tout à l'heure le rapport qu'il avait avec Don DeLillo, mais il y a une ombre qui revient dans les trois récits aussi, c'est celle d'Ernest Hemingway. Et on voit bien que l'ombre d'Hemingway plane sur le livre et pèse un peu trop, à mon sens, sur ce livre, parce que, de fait, il y a en fait une sorte, ce que je disais tout à l'heure, de double bind, c'est-à-dire d'injonction contradictoire, à savoir David Grann admire la littérature, mais il a toujours aussi présent à l'esprit que la fiction est insuffisante. Lui, à plusieurs reprises, dans une série d'aphorismes, il distingue le fait que la vérité est plus forte que la raison. Il veut aller vers ce qu'il appelle la vérité brute des faits. Et donc le caractère factuel, événementiel de ce qui se passe sera toujours plus fort que l'art romanesque. Et pour moi, ça m'a un peu laissé sur ma faim parce que on arrive à une sorte d'aporie et de limite même dans son écriture, parce que de fait, on sent qu'il veut être écrivain, qu'il n'a pas en même temps envie de l'être, mais que quand même, il l'aimerait bien. Donc cette espèce de valse-hésitation fait que nous-mêmes, on est un peu admiratif, parce qu'il faut quand même le dire, c'est une force impressionnante de reconstitution des faits, mais aussi, ça laisse une sorte de réticence devant cette non-narrative, comme fiction, comme on l'appelle, et dont les éditions du sous-sol se sont fait les maîtres, qui donnent par exemple en français, je trouve, des choses bien plus intéressantes, comme Ariane Chemin au catalogue, qui a une force, me semble, narrative supérieure à David Grann. En tout cas, ce volume, ça, c'est assez certain.
Ouais, Johan Farber a utilisé le mot de limite. Vous avez utilisé ce terme-là aussi, Pierre Benetti.
Oui, je parlais plutôt des limites entre les différents genres.
Les genres, ouais.
Bon, moi, je trouve que c'est, en fait, ça donne à la fin quelque chose d'assez passionnant, de voir cette hybridité, les tentatives qu'il fait. À mon sens, parfois, par exemple, dans l'article sur l'affaire Rosenberg, que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est quelqu'un qui se fait assassiner au Guatemala et qui annonce dans une vidéo, ça a eu un très grand retentissement au Guatemala en 2009, ça a provoqué des grandes manifestations contre le pouvoir, etc. Et qui annonce que sa mort est liée à une conspiration organisée par les autorités. Bon, on s'apercevra, je ne spoil pas la fin du mais c'est une affaire connue au Guatemala, on s'apercevra que tout ça, ce que le mort raconte est faux. Bon, et du coup David Grahn remonte l'histoire et à mon sens où là il traverse les limites, c'est assez passionnant de voir comment son écriture elle accumule un niveau d'irréalité en spirale. Enfin, moi, j'ai été vraiment pris, alors que c'est vraiment un article de presse, hein, c'est paru dans le New Yorker. C'est pas vraiment ce que font les journalistes. Là, il accumule des éléments au point où on se retrouve étouffé par une accumulation de faux. Et, et en accumulant le faux, il nous donne la vérité de cette histoire, qui est à la fin une sorte de trou dans la vérité, et où la vérité, disons, ou une partie de la vérité, serait surtout de montrer la place de la corruption, la place de politique autoritaire avec les corrompus, etc. Donc ça, les limites, il les traverse, mais quand même, il y a une écriture qui, disons, s'ajuste à son sujet. Il traverse aussi les limites, c'est assez intéressant, parce qu'on est à la fois dans le roman d'aventure, dans le récit d'espionnage, surtout pour le récit sur Cuba. Bon, sur Cuba, à mon sens, là où il devrait revenir dans certaines limites, c'est par exemple de faire un petit peu plus d'histoire. Il y a des travaux d'historiens sur Cuba, comme ceux de Vincent Bloch, qui ont travaillé sur les débuts de la révolution cubaine. Et à mon sens, David Grahn, parfois, se fait un petit peu avoir par, je vais dire, le charme de son sujet. C'est-à-dire que c'est... Il choisit un héros, comme a dit Johann Farber, un héros très Hemingway, hein, William Morgan, le mercenaire américain qui se met à travailler pour Castro. Finalement, bon, des William Morgan, en fait, il y en avait beaucoup dans les premières années de la révolution cubaine. C'était un peu, en tout cas, c'est ce que les travaux montrent, c'est un peu le prolongement de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que tout le monde trouvait sa cause et à ce moment-là, c'était la cause cubaine. Et puis, par ailleurs, il y a des sortes de sous-entendus dans ce texte qui nous disent que, disons, la CIA aurait beaucoup aimé avoir un infiltré chez Castro. Or, la CIA, on le sait, pariait un petit peu sur tous les chevaux. Donc, c'est pas vraiment... Parfois, il y a une sorte de charme il est un petit peu fasciné hein, par ces personnages qui sont hauts en couleur, il faut dire.
Johann Farber, est-ce que quand on a lu par exemple les deux derniers livres de David Grahn qui ont eu un succès retentissant, hein, le Flower Moon et puis les Naufragés du Wager, on retrouve la même précision, la même écriture?
Oui, on retrouve la même précision, la même écriture et comme le disait très bien Pierre Benetti, le même charme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des aventuriers chez David Grahn, ce sont des mésaventuriers. Mm-hmm. C'est-à-dire il leur arrive toute une série d'aventures et ces aventures en fait, ce qui explique aussi le succès des Naufragés du Wager, c'est le naufrage. C'est-à-dire que les trois personnages ont l'air, qui sont présentés ici dans Il était une fois dans les Amériques, sont trois personnages de naufragés, symboliquement, de manière, je dirais, figurale. Et en fait, on va retrouver aussi ce qui, moi, m'a un petit peu interpellé sur ce livre, une sorte de virilisme, en fait. J'ai été vraiment frappé par ces trois personnages, parce que d'un côté, on nous présente une sorte de contre-épopée, de modernité, des personnages avec des failles, mais alors c'est quand même toujours des personnages dont on fait, même s'il s'agit d'une étoffe des anti-héros, il s'agit toujours quand même à un moment donné de les réhabiliter. Finalement, la virilité arrive toujours à se débrouiller, même au fin fond de la jungle, dans ce qu'il appelle l'enfer vert. Et donc, on parle d'un David Livingstone de l'Amazonie. Donc, il y a quand même un discours qui est un peu virilisant, qui n'apparaissait pas tel qu'elle dans Les Naufragés du Wager, mais qui ici explique deux choses pour moi, c'est-à-dire la fascination de Scorsese ou DiCaprio pour ces personnages, et puis pour citer ces deux derniers, la manière dont finalement, c'est une limite de l'écriture, tout est déjà du pré-scénarisé. C'est quand même assez frappant de le lire parce que dans les deux nouvelles, on peut les appeler les deux nouvelles qui sont admirables, il faut dire aussi aux auditeurs qu'on ne s'ennuie pas un seul instant. Quelqu'un qui s'ennuie en lisant ce volume, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour lui, mais après
même
tout,
si c'est tortueux d'ailleurs,
même si c'est tortueux,
c'est compliqué à comprendre.
Voilà, on pourrait reconnaître aussi le début de Garcia Marquez en temps de solitude, etc., au début de Yankee Commandante. Voilà, mais en fait, on a vraiment la limite d'une sorte de squelette narratif qui demanderait, à mon sens, une vraie voix. C'est peut-être ça, moi, qui me semble manquer.
Pierre Benetti, un dernier mot.
Oui, non, juste un mot sur son art du lancement, qui est très très fort.
Ah oui.
Je vais juste lire les deux premières phrases. Mais à mon sens, c'est dommage que la suite des textes ne soit pas de cette ampleur-là.
Il y a c'est une un défaut de journaliste, comme, hein, ça.
ça, c'est vrai, de travailler son lancement et sa chute. Alors, il est très fort quand on lit « Rodrigo Rodriguez savait qu'il était sur le point de mourir ». Ça, c'est un premier lancement. Deuxième lancement, « Pendant un instant, il disparut dans la nuit de la Havane ». Bon, c'est quand même, c'est bien lancé. Après, il reste une question, c'est que, par exemple, ce livre-là existe pour nous en français alors qu'il n'existe pas dans la bibliographie de David Grann, puisque les deux textes sur le Guatemala et sur Cuba n'existent en anglais que dans le New Yorker. Mmh. Donc c'est vrai que là, dans la bibliothèque française, on a un nouveau livre de David Grann avec ces trois textes.
Il était une fois dans les Amériques, David Grann, édition du Sous-sol, et c'est traduit de l'anglais par Valeria Costa Kostitritsky, et Damien Aubel.